cette série que nous avons reçue, non pas pour reprendre la série, mais pour donner des compléments, simplement quelques compléments. Et parce que c'est un sujet qui est très important, c'est un sujet qui est très riche aussi, et je pense que ça vaut la peine vraiment que nous puissions recevoir, en entendre quelques petites choses. Lorsque le Seigneur Jésus faisait des discours en public et qu'il parlait du royaume de Dieu, en fait, il s'adressait souvent de manière à ce que les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'il disait. En effet, il parlait en parabole. Et je pense que pour nous, aujourd'hui, quand on lit la parole de Dieu, il y a bien, disons, des passages, bien des textes que l'on ne comprend pas, tout simplement parce qu'en fait, intellectuellement et de manière tout à fait logique, on ne peut pas entrer dans la pensée du Seigneur. Il faut véritablement, à un moment donné, en fait, sortir de notre pensée logique, cartésienne, pragmatique et tout, et véritablement voir en fait, que le Seigneur parle un autre langage. Par contre, Jésus, lorsqu'il parlait aux disciples, eh bien, il leur révélait des secrets et leur communiquait des trésors. Jésus révélait des secrets et il communiquait des trésors. Est-ce que vous aimeriez recevoir des révélations sur Dieu? Est-ce que vous... Alors, le Seigneur lui-même, chaque dimanche, nous fait des révélations. Le Seigneur lui-même, chaque dimanche, nous parle, touche nos cœurs. Mais bien souvent, lorsque nous partons, en fait, nous laissons en fait, à l'Église ce que nous avons reçu. Ce que je voudrais vous inviter, en fait, avant de commencer, c'est simplement d'ouvrir vos cœurs ce matin, de laisser de côté votre pensée, la personne qui vous parle, de vous dire « mais comment il m'a dit ça ?» Je vous demande vraiment d'abandonner en fait tout cela, parce que ce sont des filtres qui vous empêchent d'entendre le message que Dieu a pour vous. Je voudrais déjà, dans un premier temps, vous donner une première révélation par rapport à ce sujet que nous avons abordé dernièrement. J'aimerais vous révéler une chose, c'est que tout appartient à Dieu. Avant même de réfléchir si c'est à moi, si je dois donner 10, si je dois, etc., réalisons en fait que tout appartient à Dieu, la terre appartient à Dieu. Il faut réaliser que la création de notre terre, en fait, est une extension du royaume de Dieu. Et les gens disent, waouh, c'est vrai? Oui, nous sommes une extension du royaume de Dieu. Donc, une première révélation pour ce matin, c'est que notre monde, la terre, appartient à Dieu. Et que c'est une extension du royaume de Dieu. Et Dieu, en tant que créateur, en fait, il est propriétaire et il est souverain sur toute la création. Et tout lui est soumis. On peut lire, entre autres, dans certains textes de la Bible, on dit « le Seigneur règne ». On dit qu'il est majestueux. On dit qu'il est le vaillant, le tout-puissant. Tout est à lui. Nous n'avons pas... Nous, notre souci, c'est de réaliser en fait qu'il est notre Seigneur. Et nous avons à l'adorer d'abord. Donc, la terre a été créée par Dieu, d'une part pour étendre son royaume céleste. Pourquoi je vous dis cela? Tout simplement parce qu'en fait, le royaume de Dieu, le royaume céleste, il est vraiment il est extraordinaire. La Bible, quand elle nous parle de la création, et même quand nous regardons la création, quand on regarde au-delà de la terre, on voit les étoiles, on voit les nébuleuses, etc., c'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a fait cela, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses?
Amen.
Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui a donné, en fait, une partie de ce qu'il sait, il l'a donné à la terre? Oui. Je vais quand même le prendre dans la main, parce qu'il n'arrête pas de descendre. Tu arrives à l'enlever? On est un peu coincé. Mais en fait, tout est lourd, je faiblis un petit peu. Mais c'est le... Tu sais, c'est le, ça ne dira pas le... Il faut un truc plus large, plus grand. Oui, ça n'ira pas. Non, ça n'ira pas. Oui. Alors, on va faire comme ça, ça doit aller. Donc, moi, ce à quoi je voudrais vous rendre attentif, c'est simplement que Dieu, en fait, quand il a créé la terre, il a pris de son bien et il l'a répandu dans la terre. Je veux dire par là que son royaume est un lieu riche, un lieu diversifié, un lieu éblouissant, merveilleux. Il est dit même, dans la Bible on le lit, hein, il est dit que les pavés des rues du ciel sont faits avec de l'or. Est-ce que quelqu'un a lu ça? La Nouvelle Jérusalem, elle est comment? Un pavé d'or. Et vous savez, juste une petite histoire, c'est une personne qui, au moment où elle mourait, elle avait tellement du bien sur cette terre. Cette personne, en fait, elle arrivait pour aller au ciel et puis elle avait un sac. Et dans son sac, elle avait les biens vraiment précieux qu'elle voulait prendre au ciel en disant, vraiment, ça, c'est tellement précieux pour moi, je voudrais les amener avec moi. Et les gens qui s'occupent de faire entrer au ciel ont regardé cet homme, ont dit, mais pourquoi tu veux prendre ce sac? Laisse sur la terre. Puis le gars, il dit, non, mais regardez, c'est tellement beau, je ne voudrais pas le laisser sur terre. Et les gens qui s'occupaient de faire entrer les personnes au ciel ont ouvert le sac, ont regardé des lingots d'or. Waouh! Des lingots d'or! Et puis ils ont dit à la personne qui montait au ciel, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est pour paver le sol chez nous. Viens, laisse tout ça et viens au ciel. Je voudrais vous inviter, en fait, à voir combien, en fait, le ciel est tellement plus invitant que ce que nous pensons. Nous nous attachons à des choses ici sur terre. Nous nous attachons et nous luttons et nous travaillons pour des choses périssables. Mais dans le ciel, il y a des choses impérissables. Et le Seigneur nous demande de lever les yeux vers le ciel et de regarder cette terre avec la pensée du ciel. Pourquoi? Parce que la richesse dans un royaume, elle est la propriété individuelle du roi. Tout ce que vous avez ici sur cette terre, vous n'emporterez rien en partant. Tout ce que vous avez, la seule chose que vous emporterez, ce seront vos expériences humaines, relationnelles, ce que vous aurez fait en bien, en mal. C'est avec ça qu'on va se présenter devant le Seigneur et pas avec nos biens. Ainsi donc, la terre contient les caractéristiques du royaume de Dieu. Nous voyons de l'or, nous avons du gaz, nous avons tout un tas de choses, mais c'est en petite quantité par rapport à ce qu'il y a au ciel. Donc, je vous fais aussi cette invitation à reconnaître que Dieu, tout appartient à Dieu, simplement pour ouvrir aussi nos esprits à nous et voir en fait qu'en tant que chrétien, on ne doit pas être pauvre. On ne doit pas être, on peut être pauvre, mais ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se dépouiller. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est riche, qui est généreux, qui est bienveillant, etc. Et toutes ces qualités-là, en fait, on doit les revêtir, nous aussi. Et on ne devient pas riche parce qu'on aime la richesse. On devient riche parce que Dieu est un Dieu riche. On devient généreux parce que Dieu est un Dieu généreux. On devient bon parce que Dieu est un Dieu qui est plein de bonté. On se remplit des qualités de Dieu pour pouvoir vivre, mais avec un regard divin sur cette terre sur laquelle nous sommes placés. Mais vous savez, avant la création de l'homme, il y a eu une grande rébellion contre Dieu par un tiers de l'armée des anges, n'est-ce pas? Tout ce que je vous dis là, vous le connaissez déjà, n'est-ce pas? Il y a eu une rébellion dans le ciel avant que la terre ne soit créée, c'est juste ou pas? Et il y avait un tiers de l'armée des anges qui s'est rebellé, c'est vrai ou pas? Et donc dans ce tiers des anges qui se sont rebellés, il y avait le fameux Satan. Satan, eh bien, son nom signifie adversaire. Il est l'adversaire de Dieu. Et avec Satan, il y a les démons, les anges déchus, qui sont aujourd'hui des démons. On ne va pas entrer dans cette réalité-là, mais je veux juste vous dire, en fait, ce qui se passe sur cette terre, dans ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a effectivement un combat entre la pensée de Dieu et la pensée du diable. Le diable qui est tellement fâché que Dieu a créé l'homme et que Dieu puisse parler à l'homme. Le diable est tellement fâché d'avoir perdu le statut qu'il avait devant Dieu. Il était le plus beau des anges. Il était lumineux, extraordinaire, il était puissant. Mais il s'est rebellé contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a voulu, en fait, quelque part, être comme Dieu. Et c'est tout le combat que nous menons sur cette terre, les amis, avec l'argent, avec la sagesse, avec la discipline, etc. C'est tout ce combat que nous menons aujourd'hui et qu'il est tellement important que nous réalisions, en fait. Et vous savez, le diable, il ne veut pas que vous lisiez la Bible. Il ne veut pas qu'on réalise les promesses de Dieu pour nous. Le diable ne veut pas que l'on réalise, en fait, que nous, un jour, on jugera les anges. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement dur de lire la Bible. C'est la raison pour laquelle c'est tellement « Oh, je lirai demain parce que j'ai encore du temps ». C'est la raison pour laquelle, quand on lit des choses extraordinaires qui ne ressemblent à rien sur cette terre, on dit « Non, ça, c'est pas possible. Oh, Dieu a fait cela, c'est pas une jambe qui s'est rallongée, c'est pas possible. Un travail qu'il a trouvé alors qu'il n'avait pas les qualifications, c'est pas possible. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Et Dieu nous donne des choses tellement extraordinaires. Dieu nous rappelle à chaque fois que c'est lui qui a créé. Il ne l'a pas créé pour notre malheur. Il a créé pour notre bonheur à nous. Donc Satan, il a été jeté sur la terre avec les anges déchus. Et pour le moment, ce sont eux qui influencent la terre. Ainsi, tout ce qui se passe sur notre terre, non seulement est influencé par la pensée de Dieu, mais aussi la pensée du diable, l'adversaire de Dieu. Une fois que Dieu a créé la terre, il a créé l'homme. En Genèse 2, 15, on voit, hein, il crée l'homme. Et puis, Dieu lui donne une mission. Il lui donne la mission de gérer la terre. Et on voit que cette gestion de la terre est vraiment l'enjeu depuis donc le livre de la Genèse jusque dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus parle des dons que le Seigneur, qu'un maître fait à ses serviteurs, etc. Et on y reviendra. Vous voyez, donc la première chose que je voulais relever, et c'est, j'en ai fini avec elle, c'est que Dieu, la terre appartient à Dieu. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Ma respiration appartient. L'air que nous respirons appartient à Dieu. L'eau que nous buvons, Dieu. En un instant, Dieu peut faire de cette terre la lune, donc un désert. Mais en un instant, il peut de même, si nous nous tournons vers lui, si nous lui sommes agréables, si nous respectons sa parole, si nous l'adorons, il refait de cette terre un jardin. Mais nous avons oublié que la terre ne nous appartient pas. C'est dans ce contexte aujourd'hui que je voudrais juste parler de l'argent et des finances. On pourrait se poser les questions, qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire dans le domaine des finances ? Hein, l'argent, c'est mon problème, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est moi qui gère, c'est moi qui gagne cet argent. Par conséquent, c'est moi qui décide comment je le dépense. En fait, l'argent est un sujet que les gens ne relient pas automatiquement à la foi ou à la spiritualité. Pourtant, l'argent est directement relié à notre façon de vivre. Et en tant que chrétiens, nous devrions avoir une manière chrétienne de dépenser notre argent. En effet, l'argent et sa gestion sont directement reliés à notre vie spirituelle. Ce n'est pas, Dieu ne nous dit pas « donne tout ton argent aux pauvres ». Dieu ne dit pas cela. On l'a vu dans une parabole où il demande à un jeune homme riche, effectivement, de faire un acte. Mais ça n'avait rien à voir, effectivement, à un acte de dépossession. Dieu, quelque part, lui disait « donne tous tes biens ». Parce que si tu arrives à faire ce geste-là, moi, je ferai de toi un homme encore plus grand. Vous entendez ça? Si on arrive effectivement à ne pas être attaché à l'argent que l'on a, alors Dieu peut compter sur nous pour que nous réalisions l'œuvre que lui veut faire dans ce monde. Voilà, donc une deuxième révélation que je vous donne, c'est que la parole de Dieu a beaucoup à nous enseigner dans tous les domaines de nos vies. Quand on regarde la Bible, qui est un livre de vie, vous savez, c'est notre album de famille, la Bible, que j'ai l'habitude de dire. La Bible, elle raconte l'histoire de nos grands-parents. Adam, nous sommes. Est-ce que nous ne sommes pas le peuple, nous ne sommes pas de la famille d'Abraham? Par conséquent, Abraham est notre grand-père, arrière-grand-père, notre ancêtre. Le Seigneur a parlé à Abraham. Le Seigneur a donné à Abraham tellement de choses. Le Seigneur a montré à Abraham tellement de choses. Eh bien, en fait, quelque part, c'est mon histoire. C'est notre histoire. On peut se l'approprier, se l'accaparer, et on peut, à partir de là, effectivement, vivre des miracles. Vivre des miracles. Vous savez, j'ai été contremaître en bâtiment, et j'ai eu le virus de la grippe qui s'est logé dans la moelle épinière. Et le Seigneur a fait de moi un pasteur. Les médecins avaient dit que j'aurais dû être tétraplégique et aveugle. Et le Seigneur a fait de moi un pasteur. Le Seigneur m'a donné la capacité, m'a donné les moyens. Je n'ai pas fait d'université. Mais effectivement, lorsque je m'occupe des gens, il n'y a que le Seigneur. Je ne le dis pas pour moi, je le dis pour qu'on puisse ovationner notre Dieu, qu'on puisse lui faire confiance. C'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui vous donne les possibilités d'aller plus loin. C'est lui qui vous met en contact les uns avec les autres. Et c'est même lui qui permet qu'on se dispute des fois entre nous, tout simplement pour rebooster la machine, pour regarder, refaire le point sur des sujets qui nous ont blessés et qu'on puisse aller plus loin. Et tant qu'on n'arrive pas, en fait, à reprendre, en fait, on va rester au même niveau, comme le peuple de Dieu dans le désert. Le peuple de Dieu dans le désert, ils partaient d'Égypte, ils auraient dû être en Canaan en 4 jours, en 1 semaine. Et ils sont restés dans le désert parce qu'ils ont commencé à murmurer, parce qu'ils ont commencé à se plaindre, parce qu'ils n'étaient pas contents. Et le Seigneur a dit, ok, vous ne verrez pas la terre promise. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux voir les promesses de Dieu. Je veux vivre les miracles. Je veux vivre la manne quotidienne. Je veux, mais vous pas, n'est-ce pas? Mais alors réagissez, dites au moins, oh oui, respirez, ne restez pas suspendus à ces paroles. Alléluia, alléluia, au moins un qui le veut. Ça fait, il y avait, sur le peuple de Dieu, il y avait Moïse, Josué et Caleb, les seuls qui sont entrés, sur des millions qui étaient là. Ne soyons pas. Parlons. Seigneur dit, confesse, proclame de ta bouche. Alors, dans le domaine, voici donc, par exemple, dans le domaine de la foi, la parole de Dieu a plus de 218 versets qui traitent directement de la foi. 218 versets. Et nous savons que la foi est essentielle pour vivre une vie chrétienne, n'est-ce pas? On dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que Dieu dit, je te donne ceci. Ah, j'ai pas la foi. Tu peux pas plaire à Dieu. Si Dieu dit, je te donne ceci, fais-le. Et que tu le fais, tu plais à Dieu. Et il y a une bénédiction qui découle. Autre exemple, dans le domaine du salut, il y a plus de 215 versets pour nous en parler. Et nous savons tous combien il est important de bien comprendre le salut. Hein, il est absolument essentiel, le salut. Hein, sans le salut, nous ne pouvons pas connaître la réconciliation avec Dieu, notre Père. C'est parce que nous sommes sauvés que nous avons la communion avec Jésus-Christ. Et parce que nous avons la communion avec Jésus-Christ, le Père nous pardonne. Oui ou non? Donc, vous vous rendez compte qu'il n'y a que 200 versets qui parlent du salut dans la Bible. Et en ce qui concerne le domaine des finances et la gestion de notre argent, nous trouvons environ 2084 versets qui nous enseignent dans ce domaine. La foi, 200, le salut, 200 versets, mais les finances et la gestion de notre argent, 2084 versets qui nous enseignent dans ce domaine. Nous avons déjà entendu ces choses-là, mais en fait, on oublie et c'est ça qui est grave. On a entendu, ok, ça reste une connaissance, mais qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi y a-t-il tant de textes de l'Écriture qui parle de l'argent, des finances, de la gestion de nos biens? Pourquoi tant parler de cette responsabilité et redevabilité par rapport aux finances? L'argent, oh, voilà. Jésus avait plusieurs missions à mener lorsqu'il est venu dans le monde. Une de ses missions était de nous enseigner les valeurs du royaume. Il y a une manière de vivre selon le royaume et une manière de vivre selon le monde. Parce qu'il y a de très grands enjeux au niveau de notre salut, vous voyez. Lorsque nous avons de l'argent à gérer, hein, je relève un fait remarquable dans le message de Jésus, c'est qu'il nous parle de 2 systèmes financiers auxquels nous sommes toujours confrontés et qui s'imposent constamment à nous. Il y a le système financier du monde qui est celui à l'intérieur duquel nous vivons. On est sauvé, on a reconnu que Jésus est notre Seigneur, etc. Mais quand on doit maintenant vivre avec notre portefeuille, dans cette réalité-là, ça devient difficile. Hein. Dieu dit, donne ton 10%. Aïe, je ne vais jamais arriver à boucler le mois, je ne vais jamais arriver à payer mes factures. donne 10% et tu verras ce que le Seigneur va faire en retour. Ah non, non, mais vraiment. Ou alors on dit, ah non, c'est marqué 10%, je donne 10%, c'est tout. Je ne veux rien savoir de plus. Vous voyez ? Or. Vous connaissez tous Joyce Meyer. Joyce Meyer, elle n'est pas théologienne. C'est une dame, quand elle a commencé à prêcher, les hommes disaient même, comment est-ce qu'une femme peut prendre la parole, etc., etc. Elle n'avait pas d'argent. Ils avaient une voiture qui allait mais qu'un cas d'un lieu de conférence à l'autre. Et aujourd'hui, Joyce Meyer, c'est une institution. Le Seigneur, ils n'avaient rien. Ils mangeaient dans des McDonald's, ils dormaient dans leur voiture la nuit avant d'arriver à un endroit. Mais ils ont donné leur vie, ils ont donné, etc. Ils ont parlé du Seigneur. Et aujourd'hui, en fait, c'est une entreprise, Joyce Meyer. C'est une entreprise. L'Église, Dieu peut donner du travail. On peut mettre des salariés à l'Église. Ah non, non, mais l'Église, on vient pour prier. Mais non, Dieu est plus grand. Dieu est plus... Et vous avez des gens qui vont travailler pour Joyce Meyer, ils sont tellement heureux. Parce qu'il y a la parole de Dieu, parce qu'il y a un environnement sain, parce qu'il y a des finances qui sont saines, et la joie, le bonheur, etc. Alors que d'autres vont travailler dans des entreprises où on les harcèle, on les insulte, on les pousse, et à la fin du compte, ils reçoivent de tout petits salaires. Donc la parole de Dieu nous dit que vraiment, dans ce monde, nous sommes appelés à être, appelés à vivre dans ce monde, mais à ne pas être dans ce monde. Oui. Donc, Dieu cherche à nous dire qu'il nous a appelés, en tant que croyants et en tant que chrétiens, à vivre dans le royaume. Je vais arriver tout de suite à cette deuxième révélation. J'ai dû vraiment, non pas condenser, mais c'est tellement, il y a tellement des exemples, je dirais, parlants, tellement de réalités qui nous étonnerait par rapport à ce thème, que voilà, je ne fais que brosser la chose, et c'est à vous d'aller relire cette Bible, chercher des exemples, chercher les réalités. Vous voyez, il dit, alors, j'ai juste un papier. Oui. Et puis 4, voilà. C'est bon. Voilà. Il a dit que le royaume de Dieu, il est proche, le Seigneur Jésus. Et notre réponse, notre réaction devrait être celle à laquelle Jésus nous invite. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Mais vous savez que la repentance n'est pas seulement le fait de reconnaître son péché, n'est-ce pas ? La repentance, ce n'est pas de dire « oui, je suis un pécheur ». La repentance, ce n'est pas de dire « oui, j'ai fait mal ceci ou cela ». La repentance n'est pas de reconnaître notre état. La repentance, pas seulement. La repentance, c'est aussi le fait de changer. La repentance, c'est le fait de changer de manière de vivre. C'est de reconnaître qu'on était devant quelque chose de difficile. Eh bien, on fait demi-tour et on change de vie. Au moment où nous nous repentons, nous devrions vraiment... changer de mode de pensée, changer de direction et même d'orientation. Dans la repentance, nous avons une réaction émotionnelle à l'appel de Dieu qui nous fait prendre conscience que nous n'avons pas suivi les voies de Dieu. Or, lorsque nous parlons des finances dans le cadre du royaume de Dieu, souvent nous ne réalisons pas vraiment de quoi nous parlons. En effet, nous sommes tellement façonnés et formés et influencés par le système du monde financier que nous ne réalisons pas que, comme dans le cadre de la repentance, c'est tout notre système de pensée, de réaction, de façon de vivre qui devrait être modifié. Pourquoi ? Vous savez, au fil du temps, nous ressentons, hein, en vivant dans ce monde, que ce système mondial est défaillant. On le dit nous-mêmes, mais jusqu'où on va aller ? Pourquoi est-ce que les choses se passent de telle manière-là ? Il n'y a pas de satisfaction. L'endettement augmente. Les hypothèques, ben, vraiment, tout, c'est pas que ça va mal. C'est que ça ne va nulle part, nulle part. Mais en fait, nous n'arrivons pas à mettre le doigt sur la nature du problème. Et la nature du problème, c'est vraiment de prendre conscience en fait que plus on s'éloigne de Dieu, et moins la vie n'a de sens. La vie, elle a tout son sens quand on écoute la parole de Dieu, quand on suit ce que Dieu nous demande de faire, et alors il nous bénit. Il nous bénit, il nous permet de vivre sur cette terre qui est sa propriété. Vous savez, l'argent, c'est une ressource, un don de Dieu. Et il nous demande de le faire travailler. Et le monde, l'argent, est devenu un refuge. Si j'ai beaucoup d'argent, je suis sûr que même mes petits-enfants pourront en profiter. Ce n'est pas vrai. Alors que si je sais que ma vie dépend de Dieu, je suis pourvu par Dieu. C'est Dieu qui me donne mon travail. Ce n'est pas mon travail qui me permet de vivre. C'est Dieu qui me donne les dons que j'ai. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé comme à expérimenter, j'étais maçon, à faire de mieux en mieux mon coffrage, de faire de mieux en mieux mon ouvrage, que je vais être reconnu comme étant un bon ouvrier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il suffit que le concurrent vienne avec un petit pourcentage en moins sur la facture que je vais faire pour faire une maison, eh bien l'autre va être choisi. Parce que, enfin bref, Dieu est la source de ma vie. Dans Matthieu 25, nous avons des paraboles qui font allusion au royaume de Dieu. Par exemple, le royaume de Dieu est semblable à. Hein, et puis, c'est deux paraboles qui nous parlent du royaume de Dieu. C'est aussi dans le domaine financier que je vais vous partager cela. Matthieu 25, 14, il dit, « Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appelle ses serviteurs et leur remet ses biens. » On a entendu ça, hein? Il y a eu une prédication qui a été donnée là-dessus. Hein? Et c'est vrai que souvent, on écoute et on se dit, « Oui, c'est vrai, alors l'argent, etc. etc. » Mais je voudrais, moi, vous rendre attentif au fait que Dieu parle d'un royaume. Or, le royaume commence dans Genèse 1, 26. Dans Genèse 1, Dieu crée les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il a achevé de former son bien. Il a fini la terre, etc. Et puis, il a remis son bien, hein, son royaume, entre les mains de ses serviteurs. Et ses serviteurs, il n'avait pas de valeur, hein, les biens qu'ils avaient reçus. Ils étaient une valeur tellement grande. Et la terre qu'on nous a donnée, elle a une valeur tellement grande. Ses serviteurs, ce sont ses fils et ses filles, les êtres humains sur la terre. Parce qu'on dit même, hein, on est esclave du Seigneur, mais en même temps, on est enfant de Dieu. En même temps, on est frère de Jésus-Christ et sœur. Jésus sait, hein, à qui il raconte cette histoire au moment où il parle de cette parabole. Il sait que ses auditeurs sont à même de comprendre ce qu'il leur partage. La preuve, quand il a parlé à Nicodème, Nicodème avait très bien compris. Il faut naître de nouveau. Et donc, quand les gens ont entendu la parabole de Jésus, en fait, le problème, c'est quelque part qu'il fallait changer maintenant d'attitude. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est la raison pour laquelle nous sommes ses serviteurs, mais nous sommes ses enfants. Jésus leur explique, quand Dieu nous a créés, il avait un bien, et il nous a ordonné, occupez-vous-en pour moi. Dominer, c'est-à-dire régner, quand on prend les termes grecs et qu'on va chercher un petit peu, même les termes hébreux, qu'on va chercher, on voit que dominer, ça veut dire régner sur la terre. Dieu nous parle à tous directement et nous demande de gérer son bien. Si j'ai prêté ma voiture à mon fils Luc, c'est ma voiture. Lui, quand il aura fini de l'utiliser, il va me la rendre. Mais nous, dans ce monde, on vit comme si, en fait, tout ce que nous avions ici était à nous. Et en fait, on oublie que c'est à Dieu. C'est Dieu qui nous le prête. Et Dieu nous dit, comment est-ce que tu as géré ce que je t'ai donné? Comment tu as géré ton métier? Comment tu as géré ta famille? Comment tu as géré ta patrie? Et nous, on dit, oui, mais ça ne te regarde pas, c'est des affaires privées, ma fille. Ma vie, c'est une affaire privée. Ma femme, c'est une affaire privée. Mon argent, c'est une affaire privée. Puis Dieu dit, non, si tu es un sujet de mon domaine, tu es un sujet de mon royaume, eh bien, en fait, je suis souverain. Et on l'a chanté ce matin. S'il est souverain, il a un droit de regard sur tous les aspects de ma vie. Et tout ce que je touche, et on l'a vu, Il a donné à un 5 talents. Quand il est revenu, le gars lui a donné les 5 talents plus les 5 supplémentaires qu'il avait gagnés. Il a rien gardé. Mais nous avons un Dieu qui est tellement bon, tellement bon. Jésus, lorsqu'il nous parle d'argent, il désire nous révéler que l'argent est la chose la plus puissante sur terre après Dieu. Et ça, c'est une autre révélation que j'aimerais aussi vous partager. Jésus veut montrer qu'il n'y a que deux maîtres sur terre, les amis. Il y a Dieu et il y a l'argent. Et pas le diable. Le diable, ce n'est pas un problème. Le diable, son problème est réglé à la croix. Le diable a été vaincu. Mais aujourd'hui, l'ennemi de Dieu numéro un, c'est l'argent. Bien des gens pensent que le diable est puissant, mais Jésus nous a dit tout au long des Écritures, non pas que Satan est puissant, mais que l'argent est puissant. Il a rajouté qu'il est impossible de servir deux maîtres. Dieu l'a dit. Impossible de servir Dieu et Mammon. Il n'a pas dit qu'il est impossible de servir Dieu et le diable. Il a dit qu'il est impossible de servir Dieu et Mammon, qui signifie en fait le dieu de l'argent. On le compare aussi, on peut faire référence au culte du veau d'or, mais c'est simplement une idole. Et on a remplacé le vrai Dieu par l'idole. Dans les paraboles citées plus haut, le maître a donné à chacun selon ses capacités et non selon son avoir. C'est une autre révélation pour moi. Souvent dans le monde, on dit non, il faut qu'on soit équitable. Alors on va prendre ça et on va chacun leur donner sa part et comme ça, on est juste. Mais Dieu ne part pas comme ça. Dieu, il donne selon les capacités des uns et des autres. Dieu nous connaît. C'est lui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. C'est lui qui sait le caractère qu'on a. C'est lui qui connaît le tempérament que nous avons. Et c'est lui qui dit, à lui, je lui donne 5, à lui, je lui donne 2, et à l'autre, je lui donne 1. Mais il les aime, les 3, de la même manière. Il les aime, les 3, autant. Mais il sait que s'il en donne 5 à quelqu'un qui ne peut faire que 1, ça ne va pas aller. Donc, le royaume de Dieu, en fait, Dieu, quand il donne ses biens, il les donne sans compter, sans limite. Et il ne demande rien en retour après. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a lui-même en fait, des biens sans limite. Dieu, ce n'est pas parce que, par exemple, vous échouez dans une mission. Allez, prenons l'Église. Ce n'est pas parce qu'un pasteur, par exemple, ne réussit pas son œuvre en un temps, voilà, nous sommes en 1900, et puis l'Église ne va pas, il y a beaucoup de problèmes, etc. Ce n'est pas pour autant que le problème sera fini pour lui. Parce qu'en fait, en 1930, la même Église peut renaître, de la même Église peut y avoir en fait une effusion du Saint-Esprit, et en fait, tout redémarre. Avec Dieu, c'est jamais vraiment fini, puisqu'il est le Dieu d'éternité. Dieu a ordonné à Adam dominer sur la terre, puis il est parti, et quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Un serpent était aux commandes. Et Dieu s'est écrié à Adam, « Où es-tu ? » Parce que Dieu avait donné une responsabilité, Dieu avait donné un talent. Adam, malheureusement, il a perdu son talent et Dieu a trouvé le serpent. Alors, je paraphrase. Adam, je n'ai pas laissé les choses dans cet état. Tu étais censé en être le responsable, mais tu as mal géré le jardin et du coup, il l'a chassé du jardin. Dieu, si nous ne gérons pas correctement les biens qu'il nous donne, eh bien, il nous les enlève. Comme dans la parabole des talents, avec celui qui a préféré enterrer le talent plutôt que de le mettre en banque. Voilà, en fait, les 3 choses que je voulais partager avec vous ce matin. La première, c'est que Dieu est propriétaire de tout. La deuxième chose, c'est que l'argent touche tous les aspects de nos vies et qu'il est important de réaliser, en fait, que cet argent, en fait, eh bien, c'est une idole à un moment donné. C'est l'ennemi de Dieu. Alors, dans le monde, on achète et on place l'argent. Et la réalité de Dieu, c'est qu'en fait, Dieu nous demande de donner afin de recevoir. Si vous donnez, étonnamment, en fait, vous allez recevoir plus que ce que vous avez donné. Et je vais prendre juste l'exemple avant la conclusion. J'espère n'avoir pas trop passer mon temps, ça va. Je prends encore donc un exemple, je dis, mais vous savez, c'est la fille de Kurt Bühlmann. La fille de Kurt Bühlmann, elle recevait 5 francs d'argent de poche par semaine. Et puis un jour, elle allait au culte et puis elle avait oublié son porte-monnaie. Et elle a demandé à son papa, est-ce que tu peux me donner 5 francs? Et le papa lui donne 5 francs. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, c'est pour donner à la collecte. Hein, le papa lui donne les 5 francs, elle donne les 5 francs. Et puis il dit, mais alors, c'est pas ton argent de poche, les 5 francs? Il dit, oui, mais j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison. Je vais te le rendre. Et le papa dit, oui, mais tu auras quand même plus d'argent. Elle dit, mais tu sais, papa, ne t'en fais pas. Parce que c'est toi-même qui nous a appris qu'il fallait donner à l'Église parce que le Seigneur s'occupe après et prend soin de nous. Et elle dit, tu vois, Madame un tel m'a donné 20 francs, Monsieur un tel m'a donné 100 francs, Monsieur l'autre, il m'a aidé avec ceci, l'autre, il m'a acheté un petit quelque chose. Et finalement, elle avait donné 5 francs, mais en retour, elle avait reçu tellement d'autres choses. Et c'est pour nous encourager, ce sont des choses réelles, des choses vraies. C'est pour nous encourager, en fait, à lâcher prise. Je vous l'ai dit, pour nous encourager à lâcher prise, pour nous encourager à oser aller plus loin. Jésus est mort à la croix pour nous. Il s'est donné entièrement et totalement. Pourquoi? Pas pour que nous vivions des vies réduites, pour que nous puissions bénéficier de toutes les promesses qui nous attendent au ciel. Vous savez, au ciel, il y a vraiment des promesses qui sont là et qui n'ont pas été réclamées par des gens qui sont déjà décédés. Si Dieu nous parle, donc maintenant je fais la conclusion, si Dieu nous parle beaucoup de l'argent et des finances dans la Bible, c'est vraiment pour nous aider à combattre l'instinct de peur que nous avons de manquer, l'instinct de peur de ne pas pouvoir payer nos factures, la peur de ne pas y arriver, etc. Mais l'argent ne résout aucun problème, ne résout pas. Il aide sur le moment, mais il ne résout pas. C'est Dieu qui résout. C'est Dieu qui résout. Parce que lui, il pourvoit et en même temps, il libère la route pour nous. Alors, il le fait, le Seigneur, afin que notre vie soit meilleure et que nous connaissions une vie plus stable et plus heureuse du côté financier. Si on arrive à comprendre, et c'est ça qui est important, vraiment, si on arrive à comprendre, en fait, que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu est un Dieu vrai, réel, si on arrive à croire dans sa parole, parce que vous savez, on est tous chrétiens dans cette salle, et on respecte tous Dieu, on aime Dieu, on chante Dieu, on est ému quand on est dans les louanges, mais en réalité, on ne croit pas dans les promesses de Dieu. Ou plutôt, on espère que c'est vrai. Mais on ne vit pas une vie où on dit, mais c'est vraiment vrai, je marche par la vue, par la foi, et je suis dans la bénédiction. Voilà, pour conclure, voici un commentaire du Proverbe 1:17 que j'ai découvert sur l'Internet et qui illustre l'importance d'être enseigné, y compris dans le domaine des finances. C'est juste un verset, j'ai pris, le Proverbe 1, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel ? C'est croire que Dieu existe. Je crois que Dieu existe, donc je crains l'Éternel. Croire ce qu'il nous dit et y obéir. Je crois ce qu'il dit, mais j'obéis quand ça ne fait pas trop mal. C'est mettre en pratique ce que Dieu nous demande pour avoir une vie équilibrée et réussie. Mettre en pratique, il dit, si tu as un problème alors que tu viens apporter ton offrande au Seigneur, si tu as un problème avec un frère, lâche là ton offrande et va te réconcilier. Obéir. Si tu as des problèmes avec ta femme, avec ton mari, règle-les avant d'aller se coucher. Si tu as des difficultés professionnelles, etc., etc., voilà, obéir. C'est la première étape du développement de la sagesse. Dieu dit qu'il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Ah, mais je n'ai pas le Saint-Esprit en moi. Alors attention à ce que vous dites. Dieu dit, il donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ne dites pas, je n'ai pas le Saint-Esprit. Parce que vous affirmez quelque part que vous ne lui obéissez pas. Dieu a donné le Saint-Esprit à chaque... Au moment où on se convertit, le Saint-Esprit est en nous. C'est à nous de le recevoir. C'est à nous de l'accueillir. Souvent, c'est au moment où nous mettons en pratique certains ordres divins, même sans les comprendre, que petit à petit, nous recevons la compréhension. Dieu dit, si tu confesses de la bouche, tu seras sauvé. Si tu confesses, c'est-à-dire si tu proclames, ah, mais moi, je ne proclame pas, non. Moi, je ne prie pas à voix haute, moi. Mais Dieu dit, mais prie à voix haute, dis, sors-le de toi-même. Ah, non, 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 non. Etc. On est plein de choses comme ça, vous savez. Et moi, le premier. Peut-être pas sur tous les mêmes, on n'a pas sur des plans différents, mais on est, quelque part, on est tous rebelles. Le premier commandement de Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, vous voyez, de toute notre âme et de toute notre force. Il s'agit donc de ne rien mettre à la place du vrai Dieu. Aime Dieu de toute ton âme, de tout. Alors, aime-le avec tes biens, avec ton appartement, avec ta voiture, avec. Il ne dit pas qu'on doit se rendre pauvre, on doit être juste. Autrement dit, c'est le sentier à long terme de nos vies. Voilà, j'arrête, c'est terminé là, hein, c'est terminé là. Mais en fait, ça bouillonne tellement que ça semble un peu haché. Alors, essayez de revisiter un peu ce qui a été dit. Ce n'était pas un long fleuve tranquille, c'était une série de vraiment d'anecdotes et de choses importantes que vous avez apportées. Mais la raison pour laquelle je suis comme ça touché, c'est parce qu'en fait, ma vie a été bousculée par le Seigneur. Ma vie a été transformée par le Seigneur. Et j'aimerais tellement, finalement, quelque part, que cette vie puisse être servie en libation, finalement, pour vous aussi. S'il l'a fait pour moi, pourquoi ne le ferait-il pas pour d'autres ? Alors, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que, vous savez, l'argent, en quittant mon métier, j'ai quitté aussi une condition, un statut. En tant que contremaître bâtiment sur le chantier, il y a tellement de possibilités de devenir vraiment riche. Et je suis devenu pasteur, mais je n'ai jamais manqué de rien. Jamais. Mes enfants ont fait des études brillantes. Mes enfants ont réussi. On dit, oui, mais il est tout le temps à l'église, il ne s'occupe pas de sa famille, et ceci et cela. Mais Dieu s'occupe de ma famille. Oh, mais il est encore à l'église, tu te rends compte et tout. Mais Dieu est là. Et il... Oh, c'est un de mes fils qui a fait le camp avec les familles. J'ai un autre fils qui est... Je ne veux pas vous dire, vous les connaissez. Mais donnez à Dieu. Et vous allez voir ce qu'il va faire pour vous.